Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le monde étrange d'Oblique avec un sommaire assez chargé. Bonjour Justine, Yann et Victor.
Bonjour. Salut tout le monde.
Alors quel est donc le sommaire placé, me semble-t-il, sous le signe du fantastique ? Yann ?
Oui, tout à fait. Le fantastique, ce sera autour d'un... L'audioblique portera sur un film de Jerzy Skolimowski, ce qui s'appelle Le cri du sorcier.
Et moi c'est très simple, c'est un film de fantôme en créole, mais je vous en dirai plus tout à l'heure.
Et moi, je vais vous parler de deux films du père et du fils David Cronenberg. Sans plus attendre, nous retrouvons donc Justine pour les événements de cette semaine. No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de sortir cette semaine, mais que l'idée même de chercher quelque chose à faire vous fatigue, pas de problème, j'ai cherché pour vous les événements à ne pas louper cette semaine. On commence bien puisque du 25 au 27 février, le cinéma Les Variétés à Marseille nous propose, le temps d'un week-end, d'explorer tour à tour le cinéma coréen, le genre survival et la culture coréenne. Un week-end bien rempli avec notamment de nombreuses animations, des quiz, des conférences et bien évidemment des projections. Entre deux repas coréens, vous pourrez voir ou revoir sur grand écran Joint Security Area de Park Chan-wook ou bien le classique Battle Royale de Kinji Fukasaku, mais également Barking Dogs Never Bite de Bong Joon-ho. Je ne vais évidemment pas tous les citer, mais ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qui vous attend. Pour le programme complet, je vous invite à consulter la page Facebook du cinéma Les Variétés de Marseille. Le mardi 1er mars, c'est Mardi Gras, mais si vous préférez faire une activité plus saine que manger des beignets, l'association Diversité, Arts et Culture nous invite à 19h au Gaumont Multiplex pour une séance ciné-rencontre à l'occasion de l'avant-première du film La Revanche des Crevettes Pailletées. J'aime beaucoup ce titre. Donc un film de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. La projection se fera en présence de l'équipe du film et sera suivie par un débat. Si La Revanche des Crevettes Pailletées ne vous inspire pas plus que ça, le même soir à 20h15, le cinéma Diagonal nous propose l'avant-première du très attendu The Batman de Matt Reeves. Mais les réservations sont ouvertes depuis déjà le 11 février, donc si vous tenez à le voir avant tout le monde, pour pouvoir revêtir votre costume de super spoiler, je vous conseille de ne pas plus attendre. Et enfin, juste un petit mot pour vous rappeler que vendredi 25 février, au cinéma Utopia, il y aura la séance oblique numéro 3, avec un double programme Cronenberg père et fils. Mais je ne m'étends pas plus sur le sujet, car dans un instant, c'est Manu qui va nous parler plus en détail de cette séance. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.
Alors je rappelle le concept, puisque Oblique n'est pas seulement une émission de radio, mais une sorte de cross-média qui inclut donc radio, bar, ciné et événements. Oui, vous avez bien entendu, bar. Le 25 février, donc à 20h, au cinéma Utopia, l'équipe d'Oblique, dont nous faisons partie, est heureux de vous accueillir pour la projection de deux body horror. Je veux parler de Vidéodrome et Possessor, respectivement de David et Brandon Cronenberg. Alors cette soirée au tarif unique de 8€ vous permettra aussi de gagner des DVD et des places pour les prochaines soirées obliques. À signaler un stand Artus, film dont les derniers films, notamment le Polar Exécution, et puis ainsi que le géant de la steppe d'Alexandre Pouptouchko viennent de sortir. Alors, comment donner envie aux gens, bah, cinéphiles ou non, hein, de venir voir ces deux films atypiques réalisés à près de 40 ans d'écart, tous deux marqués par des enjeux narratifs complexes et une esthétique singulière. Alors, commençons par Vidéodrome, hein, réalisé en 82, époque où David Cronenberg était considéré comme un marginal, un petit maître de la série B horrifique et déviante avec Rage, Frisson ou Scanner. Alors l'histoire, bah, je vais essayer de la résumer. Hein. Max Rein, patron d'une petite chaîne érotique sur le câble, capte par hasard un mystérieux programme pirate dénommé Vidéodrome qui met en scène torture et sévices sexuels. Alors son visionnage provoque peu à peu des hallucinations et autres altérations physiques. La frontière là, entre la réalité et l'univers télévisuel devient bien mince et la folie guette.
Je reviendrai tout à l'heure. Ne m'en veuillez pas de ne pas assister à cette séance. Ce genre de spectacle me dégoûte un peu.
Là où il fallait que nous arrivions. Sur Vidéodrome. Mon amour, qu'est-ce que tu attends? Commençons le spectacle. Ouvrons les portes de la frénésie à nos neurones.
Alors, je n'avais pas le souvenir d'une musique électronique aussi bizarre. Voilà.
C'est déjà une collaboration avec
Warshore. C'est Warshore, ouais, bah depuis presque le début d'ailleurs. Hein.
Oui,
Alors, Vidéodrome explore de façon ludique et perverse la frontière un peu poreuse entre le fantasme et réalité à travers un médium, la télévision, via ses programmes, alors en pleine explosion en 82. Hein. On est loin de notre société actuelle, mais finalement, le film paraît très en avance, tant il se visionne comme un cauchemar où les images envahissent l'esprit d'un homme qui pensait tout contrôler. Finalement, Black Mirror n'a rien inventé, et à l'heure des réseaux sociaux et de toutes les déclinaisons, le film paraît très moderne. C'est aussi l'époque où Cronenberg s'intéressait au concept de la nouvelle chair, hein, c'est-à-dire à la fusion entre l'homme et la machine, un thème présent dans les écrits cyberpunk de l'époque. Alors, le film est bien trop riche pour s'arrêter à cette lecture, et c'est pour cette raison que je vous invite à le découvrir, hein, si vous ne l'avez jamais vu en salle.
J'aime bien ce que tu dis à propos de Black Mirror, parce que c'est un peu ce qui m'a donné, moi, quand on a eu les possibilités de séance, envie que ce soit la séance Cronenberg. Il y a quelque chose, effectivement, de série B, comme dans Black Mirror. C'est les mêmes thématiques, en plus. Mais c'est extrêmement fédérateur. Et c'est vrai que je me dis que ça peut être une séance à la fois fun et en même temps complexe.
Oui. Et puis, le film est assez impressionnant, hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que ce qui m'a donné envie de voir le film, c'était à l'époque les effets spéciaux. J'avais vu des images absolument atroces. Alors qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, quand on voit le film. Et puis, il y a des visions vraiment originales. Un personnage qui s'introduit une cassette vidéo dans le ventre, on ne voit pas ça tous les jours.
Ah oui, ça c'est sûr.
Un magnétoscope vivant, en fait.
D'accord.
C'est pas atroce, mais marquant.
Oui.
Très marquant.
Alors, voilà. Passons donc au fiston, hein, Brandon Cronenberg, qui finalement ne démérite pas avec son Possessor, qui rappelle par bien des aspects Existent, mais aussi Vidéodrome, finalement, hein, l'ayant revu il n'y a pas très longtemps. Alors, Tasia Voss travaille au sein d'une organisation secrète qui utilise une technologie neurologique de pointe à des fins criminelles, habiter le corps d'une personne dans le but de la pousser à tuer au profit de clients très riches. Alors, tout se complique pour Tasia lorsqu'elle se retrouve dans le corps d'un homme dont l'appétit pour le meurtre et la violence dépasse de très loin le sien, au point de la déposséder de sa propre identité.
L'interface est activée, nous sommes à pleine puissance.
Surveillez vos niveaux cette fois.
Vous, assurez-vous d'appuyer sur la détente en sortant.
Une fois la liaison établie, pas de retour en arrière. Aucune perte de contrôle n'est permise durant l'exécution.
Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur.
Prête ?
Trois, quatre, cinq.
Alors, sur un thème classique de la science-fiction hein, qui évoque beaucoup Philip K. Dick, hein, Brandon Cronenberg tire son épingle du jeu en proposant finalement un film viscéral et captivant hein, qui se plaît à nous perdre pour mieux nous déstabiliser. Après, en fait, le très arty anti-viral qui était pour moi un ratage, mais bon. Le jeune Canadien là propose une mise en scène assez inventive et asphyxiante hein, à base de gros plans, de focales déformées au service d'une histoire toujours entre l'imaginaire un peu glauque et le réel, guère plus amusant. Alors le film m'avait un peu déçu à la première vision, mais là en le revoyant, j'ai vraiment été conquis, notamment par son utilisation des décors, qui nous plonge vraiment dans une ambiance très dérangeante. Alors comme double programme, ça me semble assez cohérent, hein. Enfin, d'ailleurs une cohérence qu'apprécierait à mon avis David Cronenberg, qui est lui-même un cinéaste très rigoureux, même quand il s'embarque dans des domaines un peu dingues. C'est ce que je remarque, il y a une folie hyper contrôlée chez Cronenberg toujours. Alors on connaît les zombies d'Haïti à travers des œuvres comme Vaudou de Jacques Tourneur, L'emprise des ténèbres de Wes Craven ou le récent Zombie Child de Bertrand Bonello. Mais voici maintenant les fantômes de La Réunion, n'est-ce pas Victor ?
Oui effectivement, donc on a eu la chance d'assister il y a peu à une rencontre avec le réalisateur donc Emmanuel Parot pour son film Maudit, donc c'est son deuxième ou troisième, je ne sais plus, tourné à La Réunion. Alors Maudit, pour faire simple, on va quand même resituer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Alix et Marcelin qui sont deux amis, donc habitants de l'île, des vrais réunionnais, qui se disputent à propos d'une femme qu'ils désirent tous les deux et qui est une chanteuse venue de la métropole. Bon, à la suite d'une soirée plus arrosée qu'un apéro avec l'équipe d'Oblique, Marcelin disparaît et Alix se demande s'il n'est pas responsable de cette disparition. Donc il va partir en fait dans les hauteurs de l'île à la recherche de son ami. Maudit, c'est un film qui est réalisé par un Français, mais c'est tourné en créole, sur l'île, avec les habitants, et ça ne ressemble vraiment pas à une carte postale, même plutôt au contraire. Le film est très étrange, ça peut paraître assez obscur au début du film, parce qu'en fait, il plonge vraiment directement dans le folklore de l'île, mais il n'explique rien, il ne pose pas les concepts de base de ce genre de folklore, il faut se débrouiller. Par exemple, les fantômes dans le film déambulent parmi les vivants, ils prennent même parfois possession des corps, il y a un rapport avec les ancêtres qui est très complexe. Et comme vous allez l'entendre dans l'entretien avec le cinéaste, c'est une conception très réunionnaise du revenant. Le film s'ancre également quand même dans un contexte plus concret, plus social, puisque c'est quand même une île où les réunionnais, même s'ils sont bardés de diplômes, ne trouvent que très difficilement un emploi, parce que généralement c'est les métropolitains qui les obtiennent. Et du côté de la mise en scène, la caméra de Parot va vraiment épouser le mal-être de son personnage. Il va nous embarquer dans... Ça ressemble globalement à un long cauchemar éthylique, au cours duquel, du coup, Marcelin va être confronté avec toutes sortes de visions et de spectres, généralement en lien avec son histoire, mais surtout avec l'histoire coloniale, le passé colonial de l'île. Donc il y a eu un échange vraiment passionnant qui avait lieu donc, dans le cadre de l'acid pop à Utopia. Je remercie encore une fois d'ailleurs Emmanuel Parot pour tout ça et aussi Daisy Lamotte, donc une autre cinéaste qui était avec lui lors de cette rencontre. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'elle prochainement. Et donc pendant l'échange, le réalisateur nous a parlé évidemment de Vaudou de Tourneur, qui est une référence pour lui, même si c'est vraiment très différent. Hein. Tourneur, ça reste quand même de la série B dans des décors, c'est assez luxueux. Lui, c'est vraiment c'est assez cru. Mais il nous a montré des trucs un petit peu plus pointus, vraiment étonnants. Je pense que tout le monde se souviendra, pour ceux qui étaient présents, de la présentation des entretiens reconstitués du psychologue Toby Nathan, au cours desquels on assiste à des vrais cas de possession et de transe. C'est des moments assez incroyables. Et donc vous allez entendre un petit morceau choisi, donc il fallait bien, je pouvais pas tout vous présenter en un truc, en un petit morceau de 5-6 minutes. Et donc du coup j'ai choisi un passage où le réalisateur explique tout simplement sa première venue sur l'île. C'est un extrait en apparence assez anecdotique, mais qui contient en germe tous les grands thèmes de son cinéma en fait.
Alors il y a 17 ans, j'ai longtemps travaillé à Vaux-en-Velin, qui est une ville à banlieue de Lyon. Et puis un jour on m'appelle et il fallait remplacer au pied levé quelqu'un qui ne voulait pas partir, accompagner un groupe d'adolescents qui partaient sur l'île de La Réunion dans le cadre du jumelage de Vaux-en-Velin avec la ville du port. Ils allaient tourner des films avec des petites caméras et j'étais le technicien qui allait un peu les encadrer. Et le voyage est organisé par un Réunionnais qui avait quitté l'île 14 ans plus tôt et qui était parti dans des conditions dramatiques qu'on a découvert, pas tout de suite, mais sur place. Et il tenait absolument à y aller avec des gens qui l'entouraient parce qu'il avait peur de rentrer, en réalité. Et donc, quand on est arrivé sur l'île, la première chose qu'il nous a dit, il a dit « Ok, vous allez voir les palmiers, les cocotiers, enfin le lagon, le volcan, mais je vais d'abord vous emmener chez mon père. » Et pour moi, il s'est passé deux choses qui ont bouleversé... on peut dire ma vie, puisque en tout cas ma vie de cinéaste. C'est-à-dire que d'abord, c'est la capacité des Réunionnais à être dans l'émotion. Ils sont extrêmement sentimentaux, ce qui est tout l'inverse de nous. Nous, on a Versailles, vous voyez comment c'est fait, Versailles, hein, c'est pas tellement sentimental. Eux, il y a un truc qui déborde dans les sentiments qui m'a absolument. J'ai adoré ça, quoi. Voilà, les retrouvailles du père et de son fils, c'était tellement beau, tellement incroyable. Et puis après, ça a continué dans toutes les relations que j'ai pu avoir avec les Réunionnais. Ils sont d'une générosité émotionnelle que je trouve absolument formidable. Et moi qui adore les grands mélodrames hollywoodiens et qui m'étaient toujours dit « c'est impossible d'écrire un mélodrame en France, ça correspond à rien, c'est plaqué, c'est du conte de fées », soudain, sur ce territoire, on pouvait écrire des choses où il y aurait des émotions fortes. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand on a quitté le père le soir, à 18h à la Réunion, le soleil carrément tombe dans l'eau et c'est la nuit. Et je ne savais pas qu'à 18h jusqu'à 19h, les bébêtes sortent du cimetière. L'âme des mâles morts ressort des tombes et est dans l'espace environnant. Et c'est pour ça que dans ces villages-là, aucun enfant ne sort entre 18h et 19h de sa case. Tout le monde s'enferme, même quand il fait 40 degrés dehors au mois de décembre. Et les gens restent cloîtrés chez eux. Quand on est parti, on a oublié du matériel, un micro dans la case du père. Et donc, j'ai fait revenir le car et j'ai couru pour aller chez le père. Je tape à la porte une fois, deux fois. Je sentais qu'il était à l'intérieur. Il y avait la télé, il se déplaçait, mais il n'ouvrait pas. Et je tape plus fort. Je dis, écoutez, je suis le réalisateur. Est-ce que vous pouvez ouvrir, s'il te plaît, pour me rendre le micro qu'on a oublié chez vous ? La porte s'ouvre à la volée. Il sort avec une fourche. Il essaye de me la planter dans le ventre en hurlant, le diable, je ne veux pas mourir, je ne veux pas partir, je veux rester en vie. Et il me reconnaît soudain, il dit, mais excusez-moi, monsieur Parot, je ne vous avais pas reconnu, j'ai confondu avec le diable. Donc, rentrez dans la maison, discutons, prenons un verre. Et donc, j'ai fait l'expérience de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire, j'ai découvert que ça ne marche pas comme je pensais que ça marchait. Et ça m'a absolument fasciné. Et du coup, à partir de ce moment-là, il s'est passé que j'ai pissé la copie, c'est-à-dire que je n'avais plus aucun problème pour écrire un scénario quand je pensais à ce territoire. Et deux, j'étais tellement fasciné que je suis revenu à La Réunion, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, la sociologie, l'historique, la littérature. J'ai passé des mois à me balader dans l'île à pied, et chaque fois qu'un Réunionnais voulait bien me parler, je parlais avec lui, on discutait, et voilà. Mon intérêt pour l'île, c'est construit comme ça. Mais j'ai tout de suite eu conscience que si je voulais pas raconter trop de conneries sur cette île, il fallait vraiment que je fasse un travail d'érudition très long et important, et qui continue toujours aujourd'hui. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de faire des films à la sauce occidentale sur une réalité qui ne l'est pas. J'ai pas envie de tricher avec ça, donc je cherche le chemin, à tort ou à raison, qui nous permet d'être à la fois quand même fasciné par ce qu'on voit, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, là, on est dans le regard d'un mec qui est, en apparence assez paranoïaque, très jaloux de son meilleur ami, qui sort avec une blanche, très contrarié par le fait qu'il a des diplômes, mais qu'il n'a pas de travail à La Réunion, ce qui est une réalité réunionnaise, il y a 40% de taux de chômage sur l'île. Quand vous avez 30 ans, vos parents ont payé très cher des études en France parce qu'être réunionnais et aller faire des études à 10 000 km de là, c'est extrêmement compliqué et coûteux. Et vous rentrez sur l'île, vous rendez compte, c'est des métropolitains qui ont tous les postes. Donc c'est très frustrant. Donc c'est le récit d'un type qui bascule vers une forme de folie, mais qui est aussi, à mon sens, une sorte de quête, un peu un désir de rentrer en transe, en possession, pour qu'enfin ses ancêtres se manifestent et soient de son côté. Alors bien sûr, on n'est jamais dans la réalité, on est toujours, et d'ailleurs, si on analysait les plans les uns après les autres, on verrait bien qu'à chaque fois qu'on a le sentiment d'être dans de la réalité, le plan suivant ou la séquence suivante nous prouve qu'on est dans une construction qui est purement dans un cerveau.
Sortez à la tête ! Brassez-le, en l'air ! Allez !
Alors, il faudrait que tu cherches une place. Moi, je la connais, ta place.
Juste un dernier petit mot, si vous souhaitez découvrir les films d'Emmanuel Parot, donc du coup Maudit finira, je pense, sans doute par trouver son chemin vers un éditeur ou une plateforme, j'hésiterai pas à vous faire signe quand ce sera le cas, mais en attendant, vous pouvez déjà trouver son précédent long métrage, Sac la mort, qui est disponible en DVD assez facilement.
Audioblique, Le cri du sorcier de Jerzy Skolimowski. Le cri du sorcier de Skolimowski, The Shout pour son titre original, d'après la nouvelle du même nom de Robert Graves, récompensé au Festival de Cannes par le prix du jury en 1978. Plus de 40 ans après sa réalisation, n'a aujourd'hui rien perdu de sa singularité. L'histoire, cela commence par une partie de cricket entre les patients d'un asile psychiatrique et les habitants du village voisin, au beau milieu d'une campagne anglaise, hein, très bucolique, avec des jolis pans qui se gargarisent de Léon. Cette partie va révéler un mystérieux personnage, Charles Crossley, incarné par Alan Bates, qui prétend être détenteur d'un cri qui tue, c'est ce qu'on vient d'entendre, pouvoir acquis lors d'un séjour de plusieurs années passées au sein d'une tribu aborigène en Australie. De retour d'Australie, Charles Crossley se lie avec un couple d'anglais, un couple très normal, bourgeois, Rachel et Anthony Fielding, interprétés par Susanna York et John Hurt, sur lesquels il va exercer son influence maléfique. Anthony Fielding est musicien. Il tient l'orgue de la paroisse locale. La respectabilité de cette fonction, hein, au-dessus de tout soupçon, est ironiquement relativisée dès le début par l'infidélité conjugale que les visites à l'église lui permettent, et par une autre pratique musicale, plus secrète, la manipulation et la transformation des sons concrets en sons artistiques. La musique concrète, la passion de l'acousmatique dans son studio personnel, paré de claviers, d'enregistreurs et tout un tas d'autres machines armées de potentiomètres et de filtres divers. Quelques extraits pour illustrer ces essais électroacoustiques de Fielding dans Le cri du sorcier. Dans le premier, on vient d'entendre des billes qui roulent sur une plaque métallique. Bruit modifié ensuite par la présence d'un petit peu d'eau sur cette même plaque. En voici maintenant un second où une cigarette est allumée. Un micro-enregistreur très très proche capte les sons créés par la consommation de la cigarette et par l'aspiration de la fumée. Source acoustique sensiblement trafiquée dans l'atanor du sorcier des ondes. Troisième extrait, une abeille prisonnière d'un bocal, obturée par le micro. Son bourdonnement est amplifié et transformé par une réverbération artificielle, rejoint par la respiration humaine, et le tout sous la garde du métronome. On peut saluer le réalisateur Jerzy Skolimowski de faire vivre au cinéma un genre musical dont la diffusion est plus habituellement limitée à un cercle plutôt restreint d'initiés, alors qu'il ne s'agit après tout que d'un jeu bien innocent et si peu intellectuel avec la matière. D'en sculpter les profils et se laisser tout simplement envoûter par le pouvoir ensorcelant et le potentiel surréel de ces sons concrets. S'il est bien question de sorcellerie dans Le Cri du sorcier, les activités de ce personnage musicien sans histoire, Anthony Fielding, qui œuvre en véritable alchimiste de la matière sonore, ces activités-là en donnent d'entrée un cadre prémonitoire, ouvert à la possibilité d'un cri qui tue. Le dénouement du film, sans rien divulgâcher, montrera que l'ensorcelé deviendra lui-même ensorceleur. La recherche purement acoustique du cri qui tue n'est pas imperméable au pouvoir destructeur de Charles Crossley. The Shout, le cri du sorcier, est aussi l'un des tout premiers films à bénéficier de la technologie Dolby, avec une quarantaine de pistes sonores, pas moins que ça, utilisées pour la diffusion sonore, et notamment pour la musique, parce qu'il n'y a pas que des essais électroacoustiques dans le film de Skolimowski. Il y a aussi de la musique, et la partition originale, très atmosphérique, parfois intrigante et contribuant efficacement à l'étrangeté du film, parfois, il faut le dire aussi, un brin pompeuse. Elle est signée Tony Banks et Mike Rutherford, tandem qui, à l'époque de la réalisation du film, en 1978, tandem qui formait les deux tiers du groupe de rock anglais progressif Genesis. Terminé, rappelons que le Cri du sorcier de Jerzy Skolimowski est disponible en DVD chez l'éditeur Elephant. A bientôt pour un prochain audioblique.
Merci Yann, et ben, l'émission se termine. Alors, on n'a pas vraiment le temps pour un conseil, même si j'ai envie de vous dire d'aller voir After Blue.
Évidemment.
Voilà, évidemment de Bertrand Mandicot. Film inégal mais absolument passionnant. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous.
Bonne Salut. Soirée.
Allez, bon au revoir.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.